sur l'info, le journal
avec MCM.
Les titres du journal vous sont présentés par Antoine Samoyau. Bonjour Antoine.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Les réactions se poursuivent après l'adhésion de la Polynésie en tant que membre du Forum des îles du Pacifique vendredi. À Paris, la ministre des Outre-mer a salué cette victoire pour la diplomatie française et également le travail accompli par le président Édouard Fritch. Et justement, notre invité ce midi, c'est le politologue Semir Alwardi. Il reviendra avec nous sur les conséquences de cette décision pour la Polynésie. Conséquences politiques évidemment, mais aussi économiques, vous l'entendrez. L'incendie qui touchait Temaloata s'est éteint de lui-même hier soir. Les pompiers ont éteint les dernières flammes dans la nuit. Et puis enfin, nous parlerons surf avec Michel Bourrez qui chute finalement aux portes des quarts de finale. Ça s'est passé ce matin en Californie pour la 8e étape des championnats du monde. On y revient dans quelques instants.
Et on démarre avec l'incendie de Temaloata qui s'est finalement éteint de lui-même hier soir.
En effet, la situation est revenue à la normale sur les hauteurs de Temaloata après l'incendie qui a ravagé 4 hectares de végétation. Joint ce matin par téléphone, le chef de corps de la brigade de Punaoya explique avoir remonté hier près de 3 km avec 5 de ses hommes, tous chargés de 20 litres d'eau. Ils ont ainsi pu éteindre quelques petits foyers persistants. Dans les autres zones, je vous le disais, le feu s'est éteint de lui-même en atteignant des parties plus humides de la végétation. Les hauteurs de la zone resteront sous surveillance toute la semaine pour prévenir tout nouveau départ de feu.
Social à présent avec la COSAC, pas du tout satisfaite du projet de décret qui lui a été présenté.
Effectivement, le représentant du syndicat Vatea LR n'est effectivement pas du tout satisfait par ce projet de décret définissant les conditions d'intégration des agents au sein de la fonction publique communale. Le texte lui a été présenté et pour lui, il n'a plus rien à voir avec l'accord tripartite qui avait été trouvé en 2014. Un accord conclu suite au mouvement de grève de l'époque. Un texte qui était parti à Paris porté par les parlementaires polynésiens.
Moi qui suis d'un naturel plutôt optimiste, là, je vous avoue qu'aujourd'hui je suis un peu pessimiste par rapport à la rédaction qui nous est proposée par l'État, puisque le projet d'écriture qui est parti à Paris pour validation devant l'Assemblée nationale est totalement différent de celui qui nous est proposé aujourd'hui. Il nous reste encore l'avis du gouvernement à donner et l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique communale. Donc nous attendons ces deux avis-là pour pouvoir trancher sur la question. Mais une chose est sûre, c'est que le texte qui est parti à Paris pour validation est totalement différent de celui qui nous est proposé aujourd'hui.
Vous l'avez entendu aujourd'hui, la COSAC attend les avis du gouvernement polynésien et du Conseil supérieur de la fonction publique communale sur ce projet de décret et a déjà fait part de sa position au secrétaire général du Haut-Commissariat. Concernant une énième réécriture, Vatea LR s'inquiète puisqu'il s'agit de trouver un texte sur lequel le ministre des Outre-mer, celui du budget et de la fonction publique et des finances s'accordent.
Chacun a ses prérogatives et a ses critères à défendre. Donc aujourd'hui, nous, les petits Polynésiens, nous subissons exactement la même discrimination qui est en train de s'opérer sur le droit foncier. Les agents communaux sont lésés de leurs acquis et nous ne pouvons pas laisser faire ça.
Et info pratique à présent, ça va coincer un peu du côté télécommunication ces 3 prochains jours. L'OPT annonce 3 jours de travaux, des travaux de maintenance sur les équipements qui vont entraîner des perturbations du service de téléphonie Vinibox et Manabox dans l'ensemble de la Polynésie française et des perturbations du service de téléphonie fixe dans plusieurs îles d'Etuamotu pendant 3 jours à compter de ce soir. Des travaux qui auront lieu de 22h à 1h du matin.
Et on termine par du surf avec l'élimination de Michel Bourrez ce matin en Californie aux portes des quarts de finale.
Les choses avaient pourtant bien commencé pour Michel Bourrez dans la 8e manche du championnat du monde, la Hurley Pro à Trestle en Californie. Mais ce matin, Michel Bourrez était sorti au 5e round. Il termine donc à la 9e place après une dernière manche décevante. Son adversaire Brett Simpson a réussi à surfer 9 vagues quand Michel Bourrez ne s'était lancé que 2 fois pour un score final de 8-46. Insuffisant pour rattraper les 15 points totalisés par son adversaire du jour. Et pour autant, avec cette 9e place et les 4000 points qui vont avec, Michel Bourrez devrait regagner quelques places au classement mondial où il se trouve pour l'instant en 13e position.
Une courte pause dans ce journal et puis on revient avec notre invité. On parlera du Forum des îles du Pacifique.
Radio 1, premier sur l'info, l'invité.
Et on revient à présent avec notre invité sur l'événement du week-end. La Polynésie est full member du Forum des îles du Pacifique.
La décision a été annoncée vendredi soir depuis Pohnpei en Micronésie par nos confrères de TNTV qui étaient sur place. La Polynésie et la Nouvelle-Calédonie avaient jusqu'ici le statut de membre associé au Forum des îles du Pacifique. Toutes les deux sont aujourd'hui membres à part entière du Forum. Et pour en parler, nous recevons ce midi le politologue Semir Alwardi. Bonjour.
Bonjour.
Alors on va parler des conséquences de cette adhésion. Mais avant cela, est-ce qu'on peut refaire faire un peu l'histoire de la Polynésie au Forum. Quand est-ce que la Polynésie française est entrée pour la première fois en tant, on le rappelle donc, membre observateur du Forum?
Alors, en 2004, la Polynésie obtient le statut d'observateur au Forum. Et puis, en 2006, c'est le président Oscar Temeraru qui demande à intégrer le Forum en qualité de membre associé. Alors, bien sûr, il est obligé de demander à la France, au ministre des Affaires étrangères, d'une part, et au ministre de l'Outre-mer d'autre part. Vous imaginez, il a fallu passer par toute une série de demandes, et Oscar Temeraru a fini par obtenir ses accords. Et donc, il va en discuter avec le secrétaire général du Forum, Greg Irwin, va présenter
demande.
La candidature. Et la Polynésie française sera membre associé à partir de ce moment-là. Alors, mais ça s'arrête pas là, puisque en 2014, Gaston Flosse demande alors à devenir membre et full member, comme on dit, du Forum.
Donc, membre à part entière, comme les autres pays.
Exactement,
qui sont représentés
comme
au
les
Forum
États
des
indépendants ou de self-government. Et c'est pour cela que on va commencer à réfléchir sur les possibilités, quelles sont les possibilités sur le plan juridique ou pas. Édouard Fritsch prend le pouvoir et réclame lui aussi cette possibilité d'être membre à part entière. Et c'est là où on a reçu ici la visite en 2015 d'une délégation qui est venue vérifier le statut et qui est venue à l'océanienne, on va dire, discuter avec tous les hommes politiques, les autonomistes, les indépendantistes et aussi les églises.
Alors, comment est-ce que on peut expliquer ce changement? On a souvent opposé à la Polynésie française le fait qu'elle ne soit pas un pays indépendant pour expliquer qu'elle ne pouvait pas adhérer au Forum. Concrètement, qu'est-ce qui a pu changer pour permettre aujourd'hui en 2016 cette adhésion?
Alors, en réalité, c'est pas une question juridique au départ, c'est une question politique. Il s'agissait d'être contre la France. La France a été longtemps jugée à Canberra ou comme à Wellington comme une intruse dans ce lac anglo-saxon qui était l'Océanie. Alors, déjà, il y a cette rivalité, on va dire, franco-anglaise qui date du 19e siècle, mais vient s'ajouter à cela, évidemment, les essais nucléaires.
Les incidents
et les problèmes
du Rainbow Warrior, par exemple, avec la Nouvelle-Zélande.
Voilà. Bah oui, le Rainbow Warrior et tout ça, vous pouvez imaginer. Et donc, il faut pas oublier qu'au Forum, les deux puissances régionales figurent, l'Australie et la Nouvelle-Zélande figurent au Forum, et donc il n'avait pas de mal à convaincre les autres États
de ne pas accepter la Polynésie.
Exactement.
Comme étant représentant
de la
France.
Alors, il y a eu beaucoup de crises.
Et ça, ça a changé, en tout cas.
Alors, ça a changé, d'abord. Pourquoi? Parce que la France a changé elle-même. C'était la fin des essais nucléaires en 1995. L'affaire calédonienne avait été revue à partir de 88. Donc, on a réglé, en fait, toutes les affaires en suspens. Et donc, on devenait fréquentable. Alors, ça, c'est le premier point. Vous savez, dans cette histoire, c'est un jeu à tiroirs. Il y a la France et ses relations internationales et ses intérêts dans le Pacifique et dans le monde. Et il y a les territoires océaniens français qui ont leurs propres intérêts. Le narratif n'est pas le même entre les deux. Alors parfois ça peut coïncider. Jacques Chirac vient ici en 2003, il dit à partir de maintenant ce sont les territoires océaniens, français océaniens qui vont représenter la France. En réalité on est resté sur ce double jeu. La France a des intérêts et des intérêts de grande puissance qu'elle partage avec dorénavant l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc on est là sur des affaires du Conseil de sécurité par exemple où la Nouvelle-Zélande et l'Australie voulaient adhérer au Conseil de sécurité. Et la France est un membre permanent, donc vous imaginez. Aujourd'hui, vous savez très bien que c'est une Néo-Zélandaise qui voudrait succéder à Ban Ki-moon à la tête de l'ONU. Là, on est sur des relations entre grandes puissances.
Ça, c'est pour la partie politique,
voilà.
Mais il y a également une partie plus juridique, plus technique.
Alors, la partie juridique, évidemment, c'est de se dire que le Forum n'accepte que les seuls États où, alors, comme dit une historienne, Sarah Mohamed Gaillard, seuls États indépendants où on passe de le devenir. Alors, en fait, c'est quand on regarde les statuts, c'est plus compliqué que ça, c'est les États indépendants ou en self-government. Et c'est là où les problèmes ont commencé à se poser. Self-government, c'est-à-dire les îles Cook. Les îles Cook font partie des du forum.
Du forum des îles du Pacifique.
Des départs.
En tant que membre à part entière.
Alors, évidemment, on s'est dit, mais à partir de ce moment-là, si les Cook qui ne sont pas indépendants sont membres du forum, alors la Polynésie qui est autonome, normalement, devrait pouvoir intégrer. Alors, c'était exactement, on se demandait pourquoi la Calédonie, qui est dans, justement dans une période d'autodétermination, pourquoi elle ne rentre pas. Gaston Flosse déclare lui-même en 2015, ces îles ne sont pas indépendantes puisqu'elles sont associées à la Nouvelle-Zélande. Donc, pourquoi cette exception a été faite pour eux et pas pour nous? Voilà. Alors, en réalité, c'est vrai qu'il y a ici on a l'impression qu'il reste une interprétation, on va dire, anglo-saxonne du droit. Et parce que dans le droit anglo-saxon, on peut être État associé sans être indépendant. C'est le cas des Cook. Alors que dans le droit français, si on veut être État associé, il faut d'abord demander son indépendance, l'obtenir, et après demander son association. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et comme c'est pas la même chose, c'est pour ça que nous avons inventé le concept de pays associé pour pouvoir donner l'équivalent de l'État associé dans le domaine anglo-saxon. Mais en réalité, quand on regarde de plus près, le statut des Cook, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que les Cook ont le droit à une vie internationale. Je rappelle que dès 88, la Nouvelle-Zélande a déclaré officiellement à l'ONU ne plus être responsable des affaires internationales des Cook. Et de Niue, bien sûr, à l'époque. Et en 2001, la Nouvelle-Zélande fait ce qu'on appelle le Joint Centenary Declaration, qui précise que les îles Cook peuvent nouer des relations avec toute la communauté internationale et agir, et entendez bien, en tant qu'État souverain et indépendant. C'est la Nouvelle-Zélande qui déclare ça.
Donc, on est loin des relations, effectivement, entre la France et la Polynésie ou la Nouvelle-Calédonie.
Tout à fait. Alors, du coup, ça permet aux Cook d'être membres de l'UNESCO, membres à part entière de l'UNESCO, de l'OACI, l'OMS, la FAO, etc., etc., les organisations internationales spécialisées. Mais pas de l'ONU. Eh oui, pas de l'ONU, parce que les Cookiens ont la nationalité néo-zélandaise et ils ont le dollar néo-zélandais. Donc, pour l'ONU, on ne peut pas aller jusqu'à les recevoir. Mais ce qui m'amuse, c'est qu'ils ont demandé à être ACP. Vous savez, de faire partie du bloc Afrique-Caraïbes-Pacifique dans ses relations avec l'Union européenne pour obtenir des fonds européens. Et l'Union européenne avait dit, pas du tout, vous n'êtes pas indépendant. Et finalement, à partir du moment où ils ont obtenu cette déclaration exceptionnelle de 2001, eh bien l'Union européenne a reconnu les Cook comme pays ACP. Voilà. Alors, quand on regarde ça, c'est-à-dire, en fait, ils font réellement ce qu'ils veulent sur le plan international, ils sont réellement État associés, mais dans un mode particulier, puisque, je répète, nous, on devrait être indépendants pour avoir ces relations. Et donc, ça veut dire que notre statut est quand même en deçà des statuts des îles Cook. Il suffit de lire le statut de 2004. En fait, on ne peut rien faire sans l'accord de l'État. Et même pour les affaires administratives, c'est-à-dire qui relèvent de la compétence de la Polynésie française, eh bien, on peut obtenir l'autorisation comme l'État peut refuser, évidemment.
Alors, Samir Alouardi, la transition est toute trouvée. On va parler maintenant des conséquences de cette adhésion en tant que membre à part entière, donc de la Polynésie au Forum des îles du Pacifique. Est-ce que les conséquences donc de cette adhésion en 2016, cette adhésion en 2016 peut avoir des conséquences sur le plan de la représentation internationale de la Polynésie maintenant?
Alors, évidemment, d'abord, je rappelle que la Polynésie française a des possibilités, notamment ouvrir des représentations à l'extérieur, la Polynésie n'a jamais eu cette l'idée de le faire, alors que
c'est prévu dans le statut, ça déjà.
C'est prévu dans le statut. On peut, alors bien sûr, le Conseil constitutionnel avait précisé que ce ne sont pas des ambassades, il fallait faire très attention, c'était juste des représentations. Mais il reste que la Calédonie actuellement vient de lancer ce processus et va nommer des représentants. Donc il s'agit ici d'avoir des représentations pratiquement presque diplomatique, je rappelle, on n'a pas le droit de le faire, de le dire. Bon, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une volonté extérieure qui a toujours existé, mais aujourd'hui elle va être plus forte puisqu'on est membre du forum, c'est-à-dire qu'on est considéré pratiquement presque comme un État, alors on peut demander à rentrer dans des organisations internationales spécialisées à l'instar des Cook. On peut aller plus loin, bien entendu, mais attention, avec l'accord de la France reste maître du jeu.
Alors, autres conséquences, elles sont évidemment politiques. Est-ce que cette décision, c'est une victoire politique pour Édouard Fritsch? Et j'avais envie de vous demander derrière, pour la diplomatie française.
Alors, il y a effectivement deux étages. C'est une victoire pour la diplomatie française. Je rappelle, depuis 2003, c'était quand même le souhait du président de la République. Tous les présidents de la République ont voulu que les territoires français-océaniens rentre dans cette famille océanienne.
Et on peut le rappeler, François Hollande a soutenu cette candidature de la Polynésie.
Et donc apporte à la fois leur propre voix océanienne et à la fois, bien sûr, derrière, il y a la France. Et derrière la France, il y a l'Union européenne. Je rappelle que la France est le seul passage pour l'Union européenne dans tout le Pacifique Sud. Donc, c'était cette idée-là qu'il y ait une convergence, on va dire, d'intérêts de la République française et de chaque territoire. Bien entendu.
Autre aspect, donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une victoire politique pour Edouard Fritsch, puisqu'il a réussi là où Gaston Floss et Oscar Tabarot avaient échoué, eux?
Alors, je vais franchement vous dire que quand je vous ai dit, pour devenir membre associé, c'est Oscar Tabarot qui l'avait demandé, Gaston Floss a demandé à être membre à part entière. Donc, en fait, c'est une demande des Polynésiens. Et le forum n'aurait pas compris que ce soit la victoire d'une faction contre une autre. Évidemment, c'est pas du tout le cas. Alors, en plus, on peut dire qu'en Polynésie française, Oscar Temaru avait voulu cela, même s'il s'est rétracté quand il a déclaré l'année dernière, parce qu'il n'était plus au pouvoir, que on ne peut pas rentrer au forum si on n'était pas pleinement indépendant, d'où la nécessité de devenir indépendant. Donc il a joué son jeu là, mais il adhérait à ce principe dès le départ. C'est quand même une différence entre nous et les Calédoniens, parce que le FNKS avec Rockman-Mitton ont souhaité que la Calédonie ne soit pas membre cette année, qu'il fallait attendre la fin du processus en 2018. Donc, et c'est pour ça que nous avons été vraiment aidés par le groupe, le GLP, le groupe des leaders polynésiens, qui ont vraiment poussé
pour la candidature,
alors que le fer de lance mélanésien est resté neutre dans cette histoire pour ne pas trop gêner le FNKS. Donc nous, en Polynésie française, c'est une victoire de l'ensemble, finalement, de la classe politique. Et Édouard Fritsch est arrivé, comme on dit en anglais, au bon moment, the right time, the right man at the right time. C'était le moment ou jamais, c'est ce qu'il dit lui-même.
Alors, nous finirons par là. L'adhésion de la Polynésie comme membre à part entière du Forum des îles du Pacifique, elle a également des conséquences économiques. Ça, c'est ce que vous défendez.
Alors oui, c'est-à-dire que, vous savez, c'est un principe, Schotter expliquait qu'en économie, lorsque les États et les territoires se mettent ensemble dans une organisation, ça procure des avantages dont ils ne pouvaient pas bénéficier seuls et assure à tous les membres, normalement, un niveau de bien-être qui est largement supérieur si jamais ils restaient seuls. Donc de toute façon, que les Océaniens se mettent ensemble dans une organisation, comme le dit Schotter, c'est un avantage économique. Ensuite, parce que les spécialistes nous expliquent que de toute façon, il y a cette idée qui traîne depuis très longtemps, de créer une zone de libre-échange. Et cette zone de libre-échange, si elle se fait, c'est quand même le but ultime, eh bien, évidemment, nous avons tout à gagner d'être dans cette zone-là, et tous les territoires océaniens...
C'est quelque chose que défend le Forum des îles du Pacifique,
oui,
cette
voilà,
zone de libre-échange.
Exactement. Alors, à côté de ça, bien sûr qu'il y a d'autres problèmes, le changement climatique, la préservation des océans, le contrôle des pêcheries, le lien numérique, etc. Bien sûr, il y a des tas de choses, mais... Si on veut globaliser le tout, eh bien, c'est cette zone de libre-échange à venir qui ne sera qu'un bienfait pour tous les territoires, les États océaniens, si tout le monde s'y met, évidemment, ensemble.
Merci beaucoup, Semir Alouardi, politologue. Je le rappelle, Semir Alouardi, vous tiendrez une conférence demain soir à 18h, si je dis pas de bêtises, à l'université, dans le cadre des 70 ans de l'Assemblée, conférence menée avec l'historien Jean-Marc Regnault. Merci, Semir Alouardi.